Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une histoire du Troisième Reich que vient de faire paraître François Delplat aux éditions Perrin. Franck Ferrand l'a invité cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous connaissez l'originalité de la pensée et du travail de François Delplat. Je suis heureux de pouvoir lui donner l'occasion de préciser nos idées sur cette période sombre de l'histoire.
Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Camille qui souhaite connaître l'origine des chemises de nuit.
On aura vraiment répondu à toutes sortes de questions dans cette émission, vous avouerez. Il est temps que l'année se finisse, si je puis dire. Pour le moment, laissez-moi vous retracer la carrière du numéro 2 du régime nazi, le maréchal Göring.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Paru intéressant, en préambule à cette émission sur le Troisième Reich, de retracer pour vous le parcours, disons très symptomatique, de celui qui aura été le numéro 2 du régime nazi. Alors il n'y avait d'ailleurs pas forcément de numéro 1, 2, 3, 4, 5, un numéro 1, si, ça c'est incontestable. Mais disons que Göring faisait incontestablement cet office. Il était le successeur légal d'Hitler, même s'il ne l'a pas été dans les faits et que Dönitz a été désigné à la fin du régime. On y reviendra tout à l'heure. Un homme que sa silhouette obèse et sa mine souvent joviale ont imposé dans la mémoire collective comme une sorte de baudruche du grand dictateur et qui cumule pendant près de 20 ans les honneurs et les titres à la droite du Führer. Il était grand maréchal du Reich, mais aussi ministre de l'air, premier ministre de Prusse, président du Reichstag, conservateur des forêts d'Allemagne, grand veneur du Reich, etc., etc. On pourrait comme ça multiplier les titres, j'en passe évidemment. Quelle aura été l'influence réelle de Göring au-delà de tous ces titres ronflants? Comment s'était fait cette situation unique dans le régime nazi? Voilà le genre de questions qui se posent à son sujet. Alors d'abord, il faut savoir d'où vient le personnage. Contrairement à Hitler, Göring n'est pas issu d'un milieu modeste, même pas du tout en vérité. Son père était un de ces hauts fonctionnaires coloniaux qui peuplaient l'administration de l'Empire. Il avait été médecin en Afrique. C'était un ami de Bismarck. Il entretenait des liens avec toute une partie de l'aristocratie de la cour de Guillaume II. Et le Hermann lui-même, notre personnage, est né à la belle époque, hein, il est né dans le moment, en plein dans le règne de Guillaume II, en 1893. On est à l'époque où l'empereur Guillaume, le Kaiser, multiplie les fantaisies, vous savez, des fantaisies ultranationalistes, bien entendu. Le caractère de l'enfant Göring n'est pas facile. C'est un enfant difficile, volontiers violent. Tout ça paraît le désigner pour la carrière des armes, et d'autant mieux qu'encore une fois, on est dans cette Allemagne de Guillaume II, dans cette Allemagne militaire, bien entendu. Alors, il va suivre les cours de l'école de cadets de Karlsruhe, puis de l'école militaire de Gross-Lichterfelde, d'où il sort sous-lieutenant d'infanterie, et on peut dire que la carrière de Göring, dans une période de paix, aurait sans doute été la carrière d'un de ses officiers qui passait beaucoup de temps dans les revues, parce que vous savez que le sport national de la Prusse, j'allais dire, en tout cas de l'Allemagne de l'époque, c'était les grandes revues militaires. Seulement, évidemment, comme pour beaucoup de soldats de sa génération, le grand moment pour Göring, et paradoxalement, sa grande chance, ce sera le conflit mondial qui s'ouvre en 1914. Il commence comme officier de renseignement et se montre d'emblée très audacieux. Je pense que s'il fallait conserver de tous les caractères de Göring un très dominant, ce serait justement celui de l'audace, ce qu'on a peut-être tendance, nous, à oublier parfois. C'est un homme très audacieux. Dès le début de la guerre, sa section réussit notamment à prendre 4 chevaux à des patrouilleurs français. Alors, il racontait ça par la suite avec d'ailleurs beaucoup de complaisance. Il faut vous dire que Göring était d'un naturel hableur, hein, il y a un petit côté tartarin comme ça, et alors il en rajoutait, il paraît que cette anecdote avait fini par devenir une véritable histoire qui le tenait un dîner entier. Il racontait comment, par roublardise, par audace, par culot, si je puis dire, il avait réussi à prendre ses 4 chevaux à des patrouilleurs français. Il subit plusieurs crises de rhumatisme, on l'installe donc dans une infirmerie de Forêt-Noire à Fribourg. C'est là qu'il va rencontrer un camarade qui, lui, a quitté l'infanterie pour cette toute nouvelle arme de l'époque qu'était l'aviation. Et il convainc Göring d'en faire autant. Donc Göring va demander sa mutation et il va commencer sa carrière d'aviateur comme observateur. Il est breveté pilote à l'automne 1915, autant dire qu'il est un des premiers pilotes militaires allemands, bien entendu. Premier, je parle avant de devenir un des premiers par la qualité de son pilotage, un des premiers dans le temps, tout simplement. Alors quel genre de pilote Hermann Göring était-il ? Ben encore une fois, c'est un pilote audacieux, tout à fait va-t-en-guerre, risque tout ce que dans les ailes on appelle une tête brûlée. Un jour, il est, semble-t-il, pris en chasse par 6 appareils britanniques. Donc, il est en mauvaise posture, il est touché, enfin son avion est touché, le réservoir est en feu. Il faudrait qu'il se pose, au contraire, il va faire des espèces d'acrobaties aériennes. Il arrive à échapper à plusieurs des avions, puis à l'ensemble, et il ira se poser dans un cimetière, dans des conditions extrêmement difficiles. Il est blessé à la hanche, mais il est toujours en vie. Il fera 4 mois d'hôpital et le revoilà, un peu boitillant, le revoilà au feu dès l'été 1916. Il est affecté en Alsace, près de Colmar, dans une escadrille qui est très souvent au feu, la 27e escadrille de chasse, hein, qu'il va commander du reste à partir de mai 1917. Et c'est là qu'il va multiplier les duels aériens. Est-ce qu'on peut parler pour autant, à propos d'Hermann Göring, d'un véritable héros de la Grande Guerre ? Il me semble que oui, objectivement, c'est en tout cas avec cette aura-là qu'il sortira du conflit. Il est bien sûr dans le palmarès des As de la Première Guerre mondiale, à la 22e position côté allemand, 22 victoires homologuées, ce qui est quand même assez considérable. Vous savez qu'on ne pouvait pas homologuer toutes les victoires, étant donné qu'il fallait apporter un certain nombre de preuves. Donc s'il a descendu officiellement 22 avions, c'est qu'il y en a d'autres probablement qui ne sont pas officiels. Il est classé comme 5e pilote allemand de cette guerre, certes bien loin derrière Richthofen, le baron rouge, hein, qui lui avait 80 victoires homologuées, vous imaginez, mais il n'empêche, après la mort de Richthofen, son successeur, qui s'appelle Reinhardt, qui s'est écrasé lors d'une manœuvre d'essai à laquelle participait Göring, va en quelque sorte lui laisser le champ libre. Et c'est Göring qui est nommé commandant du Geschwader Richthofen, c'est-à-dire de l'escadrille Richthofen, si vous voulez, qui se trouve être tout simplement la plus prestigieuse d'Allemagne.
Sur Europe 1 avec un extrait des Danais. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission et nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la carrière du maréchal Göring.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie et à la carrière du maréchal Hermann Göring.
Alors Hermann Göring devient donc une sorte un petit peu de héros, disons-le. Son nom est un des plus connus de l'Allemagne du lendemain de la Première Guerre mondiale. Après le 11 novembre, et malgré cette défaite terrible, cette humiliation infligée à l'Allemagne, il jouit de l'immense prestige qui s'attache au vainqueur, au chevalier du ciel qu'il est, si vous voulez. Et après la guerre, il n'est cependant pas question pour lui de rentrer dans le rang d'une carrière militaire en tant paix. Il a été démobilisé avec le grade de capitaine. Il n'a pas l'intention du tout de servir le nouveau régime de la République de Weimar. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il a des idées extrêmement dures, déjà extrêmement à droite. Il est très nostalgique de l'Empire, etc. Il n'est pas question pour lui de suivre la République. Et d'ailleurs, il va se partir pour le Danemark. On lui a proposé un rôle, ça arrive souvent dans les lendemains de guerre, ça, les industries d'armement vont se servir d'un certain nombre de soldats qui se sont manifestés au feu. Et en l'occurrence, Fokker lui propose d'aller présenter le Fokker, le F7, à Copenhague. Alors, il s'agit d'aller faire des démonstrations, bien entendu, des démonstrations aériennes. Et il dit, pourquoi pas, à condition qu'on m'offre l'appareil. C'est-à-dire, moi, je veux bien aller présenter votre appareil, mais ensuite, il faut qu'on me le donne. Eh bien, la maison Fokker est d'accord. Il va donc faire ses démonstrations, ses acrobaties, etc. Il en profite pour faire un certain nombre de baptêmes de l'air, etc. Et du Danemark, il va ensuite passer en Suède à partir de décembre 1919, où il mène une vie, on va dire, qui est la vie de l'homme privilégié qu'il est. Hein. C'est une vie assez facile, du reste. Et un soir, par mauvais temps, il accepte d'emmener dîner un jeune comte suédois. Il se trouve qu'il va faire la rencontre de la belle-sœur de ce monsieur qui s'appelle Karine et qu'elle s'éprend tout de suite de l'aviateur allemand. C'est important cette période, hein, 1900, on va dire le tournant de l'année 20. C'est le moment des grandes rencontres de sa vie. La première de ces grandes rencontres concerne, vous l'avez compris, sa vie privée. Le problème, c'est que cette femme, qui s'appelle Karine, non seulement a 5 ans de plus qu'Hermann Göring, mais elle est mariée. Qu'à cela ne tienne, son mari, un capitaine suédois, va accepter le divorce. Il a même l'élégance d'aller prendre les torts à sa charge. Et voilà donc Göring de retour à Munich avec sa fiancée, avec cette Karine qu'il faut présenter à la mère de Göring. C'est un petit peu difficile, enfin bon, on est dans une famille plus que comme il faut. Les noces n'en auront pas moins lieu le 3 février 1923 et je crois qu'on peut parler d'un grand amour. Les Göring partagent tout, même une passion, et quand je dis même, surtout peut-être, une passion pour cette espèce de mythe de la grande Allemagne triomphante qui habite Göring, qui habite Hermann depuis son plus jeune âge. On peut dire que le rôle de Karine est très important dans les premiers pas que va faire son mari dans le parti nazi. On en parlera dans un instant avec François Delplat. Je pense qu'elle a joué un rôle même peut-être plus important que ce qu'on a eu l'occasion de dire. Et là, c'est la seconde rencontre, bien entendu, une rencontre qui cette fois n'appartient plus à la vie privée mais à la vie publique. Un dimanche d'octobre 1922, Göring vient participer à une manifestation de protestation à Munich à propos de la demande d'extradition d'un chef militaire. J'entre pas dans tous les détails. Il se trouve à côté d'Hitler, cet Hitler qu'il ne connaît pas du tout pour l'instant et qui estime qu'il est absurde de protester quand on n'a pas la force avec soi. Et ça, c'est exactement ce que pense Göring. Donc évidemment, ça crée des liens. Et disons-le, Göring d'emblée est subjugué par cette personnalité de Hitler. Et à quelque temps de là, un lundi d'octobre, toujours 1922, Göring va se rendre dans le fameux café Neumann de Munich, où Hitler doit parler. Auprès de lui se trouve Rosenberg, un germano-balte qui joue au philosophe. Quand le Führer, a terminé son discours, il demande si quelqu'un dans l'assistance a une question à poser. À ce moment-là, Göring se dresse. Il demande pourquoi l'orateur ne proteste pas contre l'infâme demande d'extradition par la France d'une demi-douzaine de généraux allemands. Il repose la question dont il avait obtenu la réponse en privé, si je puis dire. Et là, Hitler fait cette réponse en public. « Il ne suffit pas de protester contre cet immondice, camarade », dit Hitler, avec cette espèce de phraséologie empruntée en partie au bolchevisme. « C'est un bavardage inoffensif qui ne fera perdre le sommeil à aucun Français. Ce qu'il nous faut, vous m'entendez, ce sont des baïonnettes pour appuyer nos protestations. » Et évidemment, Göring ne peut qu'applaudir à tout rompre. C'est là le chef dont l'Allemagne a besoin, estime-t-il. Je me dévouerai à cet homme corps et âme. C'est assez étonnant, ce genre de décision qui consiste, pour des raisons d'accointance politique et d'identité, d'idéologie, d'aller comme ça mettre sa personne au service d'une autre et en l'occurrence de cette espèce d'agité là de Hitler, qui de son côté, disons-le, depuis longtemps cherchait un chef qui se serait serait distingué pendant la guerre. Ça donnerait un peu d'éclat à son parti naissant. On peut dire, pour simplifier un peu les choses et aller sans doute un peu vite en besogne, que Göring a trouvé un guide alors qu'Hitler a trouvé une caution. Lequel rend le plus grand service à l'autre? Ça, je vous laisse imaginer. Mais enfin, là aussi, c'est une question qui mérite sans doute d'être développée. Toujours est-il qu'assez vite, Hitler va confier à ce Hermann Göring le commandement des fameuses SA. Les Göring, le couple Göring s'installe dans une petite maison près de Munich. Oh, c'est facile, cette petite maison. On peut se rendre en tramway de la maison jusqu'au bureau du Herr Hitler.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la carrière du numéro 2 du régime nazi, le maréchal Göring.
Alors donc, Hermann Göring a trouvé, du moins le croit-il, un emploi à sa mesure. Il va y réussir, du reste. « Je lui confiais une cohue indisciplinée », écrira plus tard Hitler. « En très peu de temps, il en fit une division organisée de 11 000 hommes. » C'était quand même très important. Alors, on parlera des autres chefs des SA et de Röhm, notamment. Mais Göring est à l'origine de l'organisation de tout ça. Il met les choses sur pied. C'est le véritable commandant, si vous voulez. Et là-dessus survient le putsch manqué des 8 et 9 novembre 1923. Putsch au cours duquel Göring va être blessé. Il a joué un rôle absolument majeur dans cette affaire. Il est blessé de 2 balles à l'aine. Ce putsch de 1923, on peut dire qu'il marque un tournant décisif dans cette carrière dont les soubresauts épousent l'histoire du Parti National Socialiste. DSA ont transporté le blessé clandestinement chez un médecin qui se trouve être un médecin juif, du reste, et qui va sauver la vie d'Hermann Göring. Il sera transféré de nuit dans une clinique, bah oui, parce qu'il est sous le, coup d'un ordre d'arrestation, bien entendu. C'est Karine qui va s'occuper de lui. Elle est elle-même très malade de son côté et elle va convaincre son mari de passer en Autriche. Il se rétablira d'ailleurs pendant cette période autrichienne. Il mène une véritable activité politique en Autriche. C'est-à-dire que il n'est pas le seul d'ailleurs. Hein. Tous ces nazis de la première heure qui ont pu échapper au filet de la police au lendemain du putsch manqué vont essayer de remonter quelque chose là-bas. Alors, Göring n'en est pas moins très déprimé à l'époque. Il souffre beaucoup des suites de ses blessures. Alors dans un premier temps, il prend de la morphine pour atténuer les douleurs et puis cette morphine va le rendre peu à peu dépendant et il va devenir morphinomane, disons-le. Toutes les existences, vous savez, connaissent leur période de vache maigre ou de traversée du désert. Eh bien pour Göring, on peut dire que la sale époque de sa vie, c'est évidemment celle de l'après-putsch. Karine, de nouveau, l'a convaincu de partir, de la suivre, en Suède, où il va être hébergé par ses beaux-parents. C'est là qu'il devient obèse. On a des photos de Göring avant 1924. Il n'est pas du tout, c'est pas du tout l'espèce de baudruche qu'on connaîtra par la suite. Hein. Mais là, évidemment, sous l'effet de la morphine, d'une certaine oisiveté, il est devenu, je vous le dis, morphinomane. Il est d'ailleurs défiguré, avec des accès de délire qui le rendent dangereux. Voilà le diagnostic d'ailleurs d'un hôpital où il a été transféré. Sentimental envers les siens et parfaitement insensible à l'égard de toute autre personne. Je trouve ça, c'est un diagnostic intéressant et qui peut nous en dire long sur la personnalité de ce bonhomme. Il sera guéri au moment de l'amnistie. Vous savez, quand Hindenburg va amnistier tout le monde, on est là à l'automne 1927. C'est inespéré pour lui, cette amnistie, disons-le. Hermann Göring aussitôt rentre en Allemagne. Et à ce moment-là, ce sont des déconvenus qui l'attendent, parce que Hitler est embarrassé. Vous savez, on est la mauvaise période là pour lui, fin 1927, début 1928. Hitler finit par accepter l'aide de Göring, mais on peut dire que ce n'est plus du tout l'entente des premiers moments. Et il y a là un moment où Göring pense même que sa carrière politique est finie. C'est l'époque aussi des élections de mai 1928, avec de très mauvais résultats pour les nazis, qui n'auront que 12 députés. Ils en avaient 32 en mai 1924. Ensuite, ça explosera littéralement, mais enfin, pour l'instant, c'est la mauvaise élection, si je puis dire. Göring n'en est pas moins élu, Et c'est le début, disons-le, de sa carrière. Il prend un bel appartement à Berlin et le voilà qui mène maintenant la carrière d'un député, parfaitement dévoué à la cause et qui, ça pour Hitler, c'est fondamental et c'est peut-être ce qu'il y a à retenir de tout ce parcours, c'est que Göring est par ses origines, par ses relations, etc., va fréquenter les salons élégants. Il fréquente un certain nombre de membres de l'ancienne famille impériale. Il est en quelque sorte, si vous voulez, l'ambassadeur d'Hitler dans la bonne société. Des industriels, des banquiers se rapprochent de Göring. Et il va se surpasser au moment des élections de septembre 1930. Il devient à ce moment-là un des grands orateurs du parti. On ne sait pas ce qui s'est passé d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas en lui au départ ce talent particulier de battleur d'estrade qu'il va acquérir dans le cadre de cette campagne-là. Alors là, c'est le grand succès, vous savez, en 30, hein, 107 députés. Hitler va lui préférer Röhm néanmoins pour la direction des SA. Et ça n'empêche pas Göring de continuer, du coup, à faire son chemin au Reichstag. Il est évident que pour cet homme... Comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est un personnage assez imbu de lui-même, vous l'avez bien compris, assez matu vu, etc. Cette carrière pourrait être considérée comme une fin en soi, mais n'oubliez jamais qu'il est par ailleurs très dévoué au parti. Il a certes d'un côté, comment est-ce qu'on pourrait dire, qu'il est assez respectueux des traditions, des institutions, etc. Mais d'un autre côté, il est prêt à tous les coups de force, il est prêt à tous les reniements, il est prêt à toutes les audaces dans ce caractère audacieux qui est le sien pour porter le parti au pouvoir. Le 30 août 1932, la coalition du centre plus du parti du peuple bavarois plus les nazis porte Göring à la présidence du Reichstag et lors de la première session, un député communiste demande le refus de confiance à von Papen. Ça va être l'ordre de dissolution signé d'Hindenburg. Göring, ça c'est assez extraordinaire, Göring feint de n'avoir rien vu et la motion, en l'occurrence, est adoptée. On va voir jusqu'où, comment pourrait-on dire, jusqu'où l'habileté tacticienne de Göring aura été essentielle dans l'accession d'Hitler au pouvoir. Bonjour François Delplat, nous allons revenir sur cette carrière de Göring ensemble et puis bien entendu au-delà du personnage, c'est l'ensemble du Troisième Reich qui va faire l'objet de vos éclaircissements.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du Troisième Reich, avec votre invité François Delplat, normalien, docteur en histoire habilité, auteur d'une histoire du Troisième Reich aux éditions Perrin.
Alors, François Delplat, j'ai laissé Göring dans les débuts encore de sa carrière. Il va jouer un rôle essentiel dans le fameux incendie du Reichstag, bien entendu. Il va pousser, on peut dire, Hitler au pouvoir, alors qu'il est veuf d'ailleurs. Hein, la mort de sa femme en 1931 l'a profondément marqué. Il est un peu, je disais qu'il était la caution d'Hitler, il est un peu celui grâce auquel Hitler a réussi à convaincre des milieux qui jusqu'alors lui étaient fermés. Je pense à la grande industrie, à la banque, à l'armée, surtout à la Wehrmacht.
Oui, c'est effectivement certainement la clé de voûte de cette alliance entre milieux conservateurs et ce parti nazi qui vient de pousser comme un champignon, surtout sur le plan électoral. Et on peut citer en particulier le nom du docteur Schacht, Hjalmar Schacht, qui est le grand spécialiste des finances, qui a déjà une grande auréole sur le plan mondial comme spécialiste des questions monétaires pour avoir, entre guillemets, sauvé le mark après la terrible inflation de 1923. Cet homme, donc, qui fait partie des milieux conservateurs allemands, qui en est l'un des fleurons, il est véritablement recruté par Göring comme sympathisant nazi au mois de janvier 1931. Et il va lui présenter Hitler. Et ce sont là des moments absolument capitaux dans la préhistoire du Troisième Reich. Et ensuite, Schacht devient le grand tome du Troisième Reich sur le plan à la fois financier et économique, jusqu'environ en 1936.
Alors Göring, aussitôt après la prise de pouvoir d'Hitler, en janvier 1933, hein, quand je dis prise de pouvoir, c'est Hindenburg, président de la République, qui l'a nommé chancelier, va organiser la police. Je pense que cette dimension de police, les tout premiers camps de concentration, etc., il faut insister car c'est Göring ça au départ.
Oui, et en qualité de ministre de l'Intérieur en Prusse. La grande habileté d'Hitler pour arriver à se faire nommer chancelier alors que le président Hindenburg ne voulait pas en entendre parler et l'avait quasiment juré pour l'éternité, la grande habileté d'Hitler, c'est au dernier moment de se contenter d'un seul ministère. Il veut absolument la chancellerie, mais alors comme ministère, il se contentera du ministère de l'Intérieur, à la fois au plan du Reich et au plan de la Prusse. Au plan du Reich, ce sera Wilhelm Frick et au plan de la Prusse, Hermann Göring. Et à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur au niveau des Länder a le pouvoir sur la police, contrairement au ministre de l'Intérieur du Reich qui joue simplement un rôle de coordination. Donc c'est Göring, l'homme fort. La Prusse, c'est la moitié de l'Allemagne à cette époque et c'est surtout la capitale Berlin. Et donc c'est l'homme fort de la police.
Non, on poursuit les communistes, on poursuit tous les républicains d'une manière générale.
Surtout, on présente le gouvernement Hitler, Hitler-Papen, Hitler-Hindenburg-Papen, comme la dernière chance de l'Allemagne d'éviter la guerre civile dans la situation effectivement assez grave sur beaucoup de plans créée par la crise de 1929 avec en particulier près de 7 millions de chômeurs.
Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que le prestige de Göring et les réussites successives qu'il obtient dans tous les domaines, à commencer par le domaine purement politique, nous venons d'en parler, vont lui donner un éclat qui fait de l'ombre à Hitler. On peut presque s'étonner qu'Hitler n'ait pas essayé de l'évincer, car à un moment, il était quasiment un concurrent.
Je ne pense pas qu'on puisse exactement le formuler comme ça. D'abord, Göring est toujours très révérencieux vis-à-vis de Hitler, très soumis, toujours à l'écoute de son avis, très respectueux quand lui-même lui suggère une mesure à prendre. Et d'autre part, il y a aussi un autre homme très très fort dans l'entourage de Hitler, c'est Heinrich Himmler, d'un bout à l'autre du Troisième Reich. Et comme Himmler ne surgit véritablement comme chef de toutes les polices allemandes que le 17 juin 1936, on a tendance à faire partir le pouvoir d'Himmler de ce moment-là, mais pas du tout. Pas du tout. Himmler est devenu chef des SS en janvier 1929. C'est ça la date importante parce que Hitler a décidé dès ce moment-là que les SS seraient son bras armé, seraient son instrument de conquête et d'infiltration de la société allemande, beaucoup plus que les SA qui sont voyants et qui sont infiniment plus nombreux à cette époque, mais qui sont déjà politiquement en perte de vitesse, en perte de prestige, et dont Hitler se sert comme d'une espèce de bulldog qui aboie beaucoup et qui impressionne le bourgeois, et que le Führer peut justement dompter et tenir en laisse. Et pendant ce temps-là, les SS commencent à se développer comme un embryon qui va devenir un organisme extrêmement puissant, et tout ça est tout à fait calculé, tout à fait voulu, et ça n'a rien d'une lutte de clans entre un clan Himmler, un clan Göring, un clan Goebbels ou tout ce qu'on veut. Ça,
quand vous dites c'est voulu, c'est Hitler qui le veut ?
Oui, absolument. D'un bout à l'autre du Troisième Reich, et même avant, même dans les années d'ascension, 1929-1933, Hitler présente son parti comme divisé. C'est une de ses grandes forces, et notamment divisé entre une aile droite et une aile gauche, entre des durs et des mous, et lui-même un peu au centre et un peu tiraillé. Un historien, Hans Mommsen, dira beaucoup plus tard qu'Hitler était un dictateur faible. Eh bien, il est tombé dans le panneau.
Il y a cru, en fait.
Voilà, oui. C'est l'impression qu'Hitler lui-même voulait donner.
J'en finis, si vous le voulez, avec Göring, puisque nous avions commencé avec lui. L'aviation, la Luftwaffe, est sa chose, si je puis dire, en tant qu'ancien pilote, bien entendu. Et là, c'est assez étrange, puisqu'Hitler lui confie en quelque sorte la préparation de la guerre, alors que lui est plutôt contre la guerre. Est-ce qu'on peut dire ça?
Sauf votre respect, vous tombez un peu dans le panneau.
Moi aussi, je tombe dans le panneau.
Non. Göring, vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est l'homme de la revanche. S'il va avec Hitler, c'est pour la revanche. C'est avec l'idée que cette espèce de bonhomme mystique qui attire de grandes foules peut permettre à l'Allemagne de prendre le plus vite possible une revanche militaire. Et il ne vit que pour ça, Göring, de même que Hitler, de même que Himmler, de même que Goebbels, de même que Rudolf Hess et toute cette direction du parti nazi qui va d'ailleurs, je vous le ferai remarquer, rester extrêmement stable jusqu'à la fin ou disons jusqu'à un mois ou deux avant la fin où à ce moment-là, il y aura très curieusement une disgrâce de Himmler et de Göring ensemble.
Qui à quel pose... moment là on est vraiment à la toute fin pour le coup.
Voilà, là on est en avril 1945, 5, dans les semaines précédant le suicide d'Hitler, il y a comme une disgrâce extrêmement curieuse et bizarre et à expliquer, et pas encore très bien expliquée, de Himmler et de Göring ensemble.
Alors je sais que vous avez horreur qu'on dise que Hitler était fou, puisqu'au contraire vous nous dites qu'il était sans doute parfaitement maître de ce qu'il faisait. Mais on pourrait imaginer qu'à la toute fin de la guerre, au début de l'année 1945, une partie des décisions qu'il prend n'ont plus tout à fait de cohérence.
Eh bien là aussi je m'inscris en faux. Sur la folie de Hitler, je ne la nie pas du tout. Au contraire, j'essaye de la cerner. C'est-à-dire que, bon, on l'a beaucoup traité de fou furieux, en particulier au moment du déclenchement de la guerre. Il y a une légende qui a cours à l'époque et qui a encore cours aujourd'hui sous un certain nombre de plumes, qui est de dire, bon, on lui avait cédé la Tchécoslovaquie au moment de Munich, et à ce moment-là, il a cru qu'on lui céderait encore la Pologne. Et du coup, il est devenu à ce moment-là un fou furieux qu'on ne pouvait plus arrêter. Tout ceci est de toute évidence très calculé. La seule erreur de calcul, finalement, c'est l'arrivée de Churchill au pouvoir au mauvais moment, le 10 mai 1940, le jour de l'offensive contre la France. Mais sinon, tout ça était d'une part calculé, d'autre part, on peut dire, bien, très bien calculé. Donc Hitler n'est pas fou à ce niveau-là. Il est très intelligent à ce niveau-là. Simplement, il est fou depuis la fin de 1918 ou le début de 1919, là, il a ce qu'on appelle un déclenchement de psychose. Visiblement, il est psychotique depuis son enfance, comme tous les psychotiques. Ça se forme dans les toutes premières années ou premières semaines de la vie. Mais il est la psychose peut se déclencher ou pas. On peut devenir fou ou pas dans sa vie quand on est psychotique au départ. Et lui, il le devient véritablement quand, ayant le traumatisme de cette défaite de novembre 1918, il trouve très rapidement une explication folle qui est le rôle des Juifs. Et il devient persuadé, mais sincèrement persuadé. Il n'y a pas là une ombre de jeu. C'est un grand joueur, mais oui. Quand il dit que les Juifs...
Ça, c'est pas du cinéma. Oui,
ça c'est pas du tout du jeu. Il le croit, il croit les Juifs derrière tous les maux, non seulement de l'Allemagne, mais de l'humanité, y compris les maux physiques. Et un signe de la psychose, d'ailleurs, c'est l'impuissance à métaphoriser. Il va dire que les Juifs sont un cancer de l'humanité, un cancer en phase très avancée. Si on ne l'opère pas tout de suite, il va emporter, vraiment faire mourir l'humanité. Il n'y aura pas plus un seul homme sur la Terre si le cancer juif l'emporte d'ici quelques années.
Donc on n'est pas dans un antisémitisme classique d'une certaine manière.
Hein, ça voilà.
Il y a une rupture claire avec l'antisémitisme traditionnel d'un certain nombre de milieux germaniques de l'époque.
Tout à fait. D'ailleurs, en écrivant ce livre, j'ai découvert moi-même à quel point peu de livres posaient cette question toute simple des ressemblances et des différences entre l'antisémitisme antérieur et l'antisémitisme de Hitler. C'est une question vraiment encore quasiment vierge. Saül Friedländer, le grand historien, a commencé à aborder vraiment cette question en 2006 dans le tome 2 de son histoire de la destruction des Juifs qui s'appelle l'Allemagne nazie et les Juifs, le Troisième Reich et les Juifs. Friedländer a parlé notamment d'un antisémitisme antisémitisme rédempteur. Il a inventé cette expression que je trouve tout à fait géniale et qui situe bien le problème. C'est-à-dire que, oui, c'est la rédemption. C'est-à-dire que Hitler se pose à ce moment-là en antéchrist. Il réagit contre le christianisme qui a imposé à l'humanité une morale de la pitié tout à fait dommageable par rapport au monde, au paganisme grec et romain qui avait le courage de réduire les barbares en esclavage. Alors
ça, c'est ce que pense Hitler, hein, je précise, pour ceux qui prendraient l'émission en cours. Vous êtes bien sur Europe 1. Et François Desplats nous se met dans la tête d'Hitler, si je puis dire.
Voilà, donc le paganisme gréco-romain, c'était la véritable humanité, la bonne humanité, celle qui repose sur une hiérarchie des races. Le christianisme a tout fichu en l'air pendant 2000 ans, en imposant une morale de la pitié, sous l'influence elle-même du judaïsme. Et tout ça, le prophète Hitler, sa folie, c'est de se croire un nouveau prophète, un nouveau Christ qui va sauver l'humanité, qui est le rédempteur par rapport à ces errements de 2000 années du christianisme.
Comment ce prophète va-t-il réussir à convaincre la foule? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Sur Europe 1 avec un extrait de la bande originale du film Valkyrie. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, d'Hitler et du Troisième Reich avec votre invité François Delplat, normalien, docteur en histoire habilité, auteur d'une histoire du Troisième Reich aux éditions Perrin.
Une histoire du Troisième Reich, le titre n'est pas du tout gratuit, François Delplat, il faut le dire. Quand j'ai reçu votre livre, pour tout vous dire, j'ai pensé que vous alliez évoquer un certain nombre de thèmes concernant le Troisième Reich. Pas du tout, c'est vraiment une histoire au sens chronologique du terme. Vous nous racontez les choses épisode par épisode, quasiment semaine par semaine.
Oui, alors d'une part, ça n'avait pas été fait en France et en français, une histoire du Troisième Reich. D'autre part, je n'en connais pas qui soit aussi chronologique et ça me paraît la bonne chose à faire. Enfin,
la chronologie permet de resituer chacun des événements et surtout le rôle de chacun de ces dignitaires dont vous parliez tout à l'heure. Hein, on a parlé de Göring, de Himmler, de Bormann d'ailleurs, etc. tous. Ça permet de remettre à chacun son rôle dans une sorte de logique et de progression, en fait. Ce qu'on a parfois tendance à oublier quand on traite les choses de manière thématique et séparée.
Oui, j'emploie à un moment l'image de la pieuvre. Je crois qu'elle est assez bonne, la pieuvre qui a des tentacules multiples. Et justement, d'étudier en même temps les aspects policiers, culturels, raciaux, intellectuels, philosophiques, médicaux, tout ce qu'on veut, d'étudier ça le plus au jour le jour possible, ça permet de voir les tentacules de la pieuvre. Sinon, on les voit pas. On voit pas comment l'Allemagne, petit à petit, se fait étouffer, se fait mettre au pas et surtout se fait mobiliser pour une guerre.
Alors voilà, c'est parce que c'est quand même le but vers lequel tout est axé, cette guerre. On va y venir dans un instant. Vous avez dit l'Allemagne. L'Allemagne, ce sont les Allemands. Donc il faut arriver à les convaincre, tous ces gens qui sont, pour mille raisons, de toutes origines, de toutes opinions, etc. Comment Hitler arrive-t-il à les mettre ainsi à l'unisson quasiment? Sauf exception, bien entendu.
Eh bien, il a d'abord son charme personnel qui opère.
Ce charisme, en tout cas. Hein.
Voilà, ouais. Un charisme qui opère aussi bien d'ailleurs sur les hommes que sur les femmes. Et qui passe notamment par son éloquence, et un peu mieux que son éloquence, par la mise en scène de ses meetings, de son congrès de Nuremberg, de tout ce décor, ces insignes, toutes choses auxquelles il a voué une attention personnelle et dans lesquelles il a réussi d'ailleurs à mobiliser son propre talent de dessinateur et de peintre rentré. On se moque beaucoup de lui et d'ailleurs on le traite aussi même de peintre en bâtiment pour dire que c'était un artiste peintre raté. Tout ceci d'ailleurs étant l'un des ingrédients de son succès, parce que tant qu'on le traite de peintre en bâtiment, on voit pas que c'est un homme politique, un diplomate et même un chef militaire tout à fait compétent, du moins par rapport aux objectifs qu'il se fixe. Il y a tout ce décor auquel il prête la main très personnellement, à l'imitation d'ailleurs de son grand maître qui est Richard Wagner, l'auteur d'opéra, qui lui-même était très soucieux de décors, de costumes et de mise en scène. Et donc il y a tout ce...
C'est son inspirateur en tout cas, à défaut d'être son maître.
Voilà, donc Hitler est un artiste raté, si on veut, au sens où il n'a pas réussi à devenir un peintre ou un architecte. Il avait aussi cette vocation d'architecte, donc ça, il n'a pas réussi, il n'est pas devenu un peintre qui exposait dans les musées, ni un architecte qui avait des commandes. En revanche, il a mobilisé ce talent réel qu'il avait dans son œuvre, qui est son Troisième Reich, et qui est la guerre de ce Troisième Reich. Tout ceci peut être assimilé à une œuvre d'art totale, suivant donc le concept de son maître Wagner.
Par rapport à la société soviétique mise sous un régime de terreur par Staline à la même époque, comment définiriez-vous la mainmise, l'emprise du régime nazi sur la société allemande ?
Comme infiniment plus habile. Et on a vraiment tout à fait tort très souvent tort. Il y a des points de comparaison, il y a des points de rapprochement. Mais il y a surtout des points de différence entre nazisme et stalinisme, nazisme et communisme, et en particulier dans l'habileté avec laquelle l'un et l'autre ont été mis en œuvre par leurs dictateurs respectifs. Le stalinisme, bon, il y a un petit peu de ruse, si on veut, mais il n'y a pas du tout l'habileté et le doigté qu'il y a dans le nazisme. Staline utilise énormément la répression, arrête des millions de gens,
Ça paraît plus brutal, mais enfin, ça, il ne faudrait pas minimiser pour autant les brutalités du régime nazi, qui sont grandes aussi, tout de même.
Elles sont grandes, elles peuvent être énormes, elles se développent pendant la guerre sous la forme quand même meurtres de masse.
Ben oui.
Mais justement, il y a un doigté au sens où il y a une progressivité, et où par exemple les meurtres nazis avant-guerre, en temps de paix, sont... très criminel, très calculé, vraiment sans excuses, sans circonstances atténuantes, mais infiniment moins nombreux que sous le stalinisme.
Alors, diplomatiquement, Hitler n'a qu'une idée, c'est d'aller vers la guerre, bien entendu. Mais il va s'appuyer pour le faire sur un certain nombre de pays. Alors, on pense toujours aux deux régimes autoritaires, régime fasciste italien et régime de Franco en Espagne. Il s'appuie sur l'Espagne et sur l'Italie. Incontestablement. Mais celui avec lequel il va s'allier, ça surprend tout le monde et ça prend la planète entière à contre-pied, c'est précisément Staline et le régime soviétique. Comment a-t-il été vers ce pacte germano-soviétique ?
Eh bien, tout à fait, à la fois lentement et rapidement. Et il développe un anticommunisme qui semble absolument sans faille entre 1933 et le tout début de 1939. Et il se dit aussi un homme de paix. Moi, je fais un réarmement, mais c'est uniquement pour rendre au Reich sa dignité, parce que on l'avait plongé dans l'indignité en le privant d'armes. Qu'est-ce que c'est qu'une nation privée d'armes? Elle est forcément l'esclave des autres. Donc, bon, pas être l'esclave des autres, je fais un réarmement, mais je suis un homme de paix, j'ai pas du tout l'intention de m'en servir de mes armes.
Il y a beaucoup de gens qui le croient, ça, du reste. Hein.
Oui, oui, et notamment en France.
Notamment en France.
Notamment en France. Hein, et ça reste une chose, un sujet un peu vierge. Les intentions de Hitler contre la France. Il y a un livre d'ailleurs de Jean-Paul Cointet très récent, Hitler et la France, qui commence à lever un peu, je dirais, un coin du voile là-dessus. et Hitler n'a jamais renoncé à écraser la France. C'est l'un de ses souhaits permanents. Et entre 33 et 39, il dit le contraire, le cœur sur la main. Il dit « Je vous laisse l'Alsace-Lorraine, j'en veux pas. Je veux faire une amitié éternelle avec vous. » Mais ça alors, c'est complètement du cinéma. Et il a l'intention d'écraser la France. Et quand il le fait en mai-juin 40, il réalise une de ses intentions les plus chères.
Et ce que vous nous dites, c'est que tout le monde s'était mis au diapason de cette intention. Il y a donc une sorte de programme qui est réalisé, avec le concours, chacun dans son registre, de tous ces sbires, en fait.
Oui, bien entendu. Alors, d'un autre côté, comme je disais tout à l'heure, il organise aussi des divisions entre son
entourage.
Il divise
pour mieux régner, ça, oui, bien sûr.
Voilà, donc, par exemple, Ribbentrop, qui était au départ le monsieur ministre des Affaires étrangères du parti nazi, et puis qui devient celui de l'Allemagne seulement en février 1938. Entre-temps, il a été ambassadeur à Londres. Il était donc l'homme qui cherchait à faire un des buts de Mein Kampf, qui était une grande alliance éternelle entre l'Allemagne et l'Angleterre au nom de la race aryenne. Donc, alors Ribbentrop, ayant échoué dans son ambassade à Londres, est censé devenir le plus anti-anglais, et c'est pour ça qu'il serait le maître d'œuvre du pacte germano-soviétique. Tout ça est grotesque, même si il peut arriver que Ribbentrop le croit. Hein, mais de la part de Hitler, c'est complètement calculé, c'est pour faire semblant d'avoir autour de lui des clans qui s'affrontent et qui le tirent les uns vers l'Alliance anglaise. Alors Göring, à ce moment-là, ça sera plutôt vers l'Alliance anglaise, et Ribbentrop plutôt vers un rapprochement avec Moscou.
Nous avons commencé cette émission en évoquant Göring. Il faut peut-être dire ce qu'il est devenu, Göring. Donc, à la fin de la guerre, il se cache d'abord au moment de l'arrivée d'un côté des Alliés, de l'autre de l'Armée rouge. Et puis, il va se livrer aux Américains. Il a l'air presque soulagé de se livrer aux Américains.
Oui, et c'est là que je dis qu'il a le comportement de quelqu'un qui est en mission. Il vient d'être rayé à grand spectacle du testament d'Hitler dans son testament.
Au profit de Nitz.
Voilà. Et dans son testament politique, Hitler le déshérite et le chasse du parti et de toutes ses fonctions. Et ça, donc quelques jours plus tard, on voit Göring arriver comme une fleur avec armes et bagages pour se livrer au général américain du secteur. Et il semble là en mission de Hitler. C'est-à-dire que, voilà, je suis en disgrâce. Ça veut dire que maintenant, vous n'avez plus rien à craindre du nazisme. En revanche, je vous propose qu'on se mette ensemble contre les soviétiques. Mais ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la politique d'Hitler depuis Pearl Harbor. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a tenu jusqu'au bout ? C'est parce qu'il voulait dissoudre la coalition adverse.
Les Américains ne marcheront pas, évidemment, dans ce plan-là. Ce sera le procès de Nuremberg pour Göring, comme pour un certain nombre de ses camarades. Et il sera finalement condamné à mort. Il se suicidera avant d'avoir pu être pendu.
Oui, c'est le dernier petit mystère de la vie de Göring. Il avait été fouillé à son entrée en prison. Il était tout à fait impossible qu'il ait pu garder du poison sur lui ou en dissimuler dans sa cellule. Et puis, il croque une pastille de cyanure quelques heures avant l'exécution générale des 14 condamnés à mort du procès. Il est le seul à y échapper par ce moyen-là. Comment avait-il eu cette capsule de cyanure, de toute évidence, en charmant, en corrompant, en séduisant une dernière fois quelqu'un, c'est-à-dire un garde américain de la prison qu'on n'a jamais pu véritablement trouver. Alors il y a eu quelques confessions tardives, mais on n'a rien de sûr.
Une histoire du Troisième Reich de François Delplat, c'est aux éditions Perrin. Merci beaucoup.
Merci.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Camille qui souhaite connaître l'origine des chemises de nuit.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Camille. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait savoir depuis quand existent les chemises de nuit.
Eh ben, pas depuis très longtemps, pour tout vous dire. Parce que pendant très longtemps, alors certes on avait des vêtements de nuit dans l'Antiquité, j'entre pas dans tous ces détails, mais si l'on prend en tout cas l'Occident chrétien, pendant très longtemps, pendant tout le Moyen-Âge et même encore à la Renaissance, on dort nu, presque toujours. Et quand on met une chemise de nuit, c'est ce qu'on appelle le drap de la pudeur, c'est vraiment dans un signe très précis, c'est pour refuser d'accomplir le devoir conjugal. C'est ce que font les femmes dans ces cas-là. Dans 100 nouvelles nouvelles, vous savez qu'il y a un recueil qui a été composé à Cour de Bourgogne au milieu du 15e siècle, voilà ce qu'on voit une héroïne, une femme qui passe une chemise et une robe d'intérieur au moment où elle ne voit plus son mari. La chemise, dès qu'elle revient dans le lit, elle la retire et elle ne la remet que pour se lever le lendemain matin. Vous voyez, c'était donc très particulier. On va vivre de la même façon jusqu'au 17e, même encore au 18e siècle, où commencent à se développer les vêtements de nuit. Le vêtement d'intérieur commence à connaître vraiment, à se répandre au 19e siècle. Quant à la lingerie de nuit telle qu'elle, elle n'existe tout simplement que depuis le 20e siècle. Elle est aujourd'hui beaucoup plus fonctionnelle et elle est liée à la mode, évidemment.